Comme j'ai quand même beaucoup écrit avant d'avoir un ordinateur, comment je faisais auparavant pour effacer, recomposer, coller, couper, etc., etc. Et bien que je ne crois pas que l'ordinateur ait changé quelque chose d'essentiel dans mon rapport à ce que j'écris, à la forme de ce que j'écris, etc., il a facilité, en les accélérant, les interventions techniques dans le texte, hein, les recompositions, comme ça, couper-coller. L'opération de couper-coller devient, comme vous savez, beaucoup plus rapide et facile. Je prépare mes cours sur un ordinateur et il peut m'arriver, par exemple, plus facilement qu'auparavant, naturellement, une fois que j'ai écrit l'équivalent de ce dont j'ai besoin pour une séance, de placer au début ce qui était à la fin, de recomposer en quelques secondes la mise en scène, en quelque sorte, d'un texte, avec beaucoup plus de facilité et beaucoup moins de temps qu'auparavant. Donc, ça m'est très, très utile, bien sûr.
Alors, le livre à venir, c'est un titre de Maurice Blanchot.
Oui. Ça, le texte qui est recueilli au début de Papier Machine sous ce titre, c'est une conférence que j'avais faite à la Bibliothèque nationale, justement sur la fin du livre. C'était en fait l'introduction à une discussion que j'avais eue avec Bernard Stiegler et Roger Chartier sur ce qui arrive, ce qui arrivera au livre dans une bibliothèque. Alors, je me suis en effet référé à ce que dit Blanchot dans le texte qui porte ce titre, avec naturellement un salut au coup de dé, c'est-à-dire à ce qui, dans la forme livre, déjà lui faisait arriver des dislocations, des mouvements contrôlés d'aléas, des délinéarisations, etc., etc. Donc je me suis référé donc à Blanchot et à Mallarmé dans cette conférence à la Bibliothèque nationale, en prenant en compte que ça se passait dans une bibliothèque, parce que chacun des textes qui sont dans Papier Machine se marque, et de façon délibérée, explicite, par référence à la situation, au contexte, au lieu pour lequel il a été produit. Soit des conférences dans des bibliothèques, ce sont toujours des institutions qui ont affaire au papier, puisqu'il s'agit de papier, soit des bibliothèques, soit des journaux, soit des revues. Et évidemment, au cours de cette discussion, nous avions à la fois rappelé et évalué notre rapport à la culture livresque, à la culture du livre. Et de façon apparemment contradictoire, mais c'est une contradiction à laquelle je tiens, j'ai dit que, à la fois, je tenais au livre, et à la culture du livre, c'est-à-dire au temps du livre, à la forme de lecture et d'écriture requise par cette chose finie qu'est le livre, mais que tenir au livre ne signifiait pas, naturellement, se fermer à ou s'interdire l'accès aux formes d'impression et au support non livresque de la parole et de l'écriture.
Alors le livre Papier Machine a un sous-titre qui est Le ruban de machine à écrire et autres textes. Et Le ruban de machine à écrire, c'est le deuxième texte du volume où il est notamment question de Rousseau, qui est encore un revenant, parce que Rousseau, on le trouve également dans ce livre que nous avions cité tout à l'heure, de la grammatologie, où là, vous vous intéressiez longuement à l'essai sur l'origine des langues. Mais dans Papier Machine, c'est un extrait des Confessions là, qui vous requiert, où Rousseau raconte comment, chez Madame de Vercelin, il a volé un petit ruban couleur de rose et argent, et comment il a fait accuser de ce vol une pauvre cuisinière.
Marion. Le titre, Ruban de machine à écrire, se justifie dans une certaine mesure par le fait que ce ruban de soie volé, vol qui fut une sorte de traumatisme générateur et fondateur et paradigmatique pour Rousseau, en tout cas ce qu'il dit, ce ruban a donné lieu, dans l'histoire de la lecture et de la théorie littéraire, à une véritable bibliothèque, un nombre considérable de textes. Il a engendré des masses de textes, de réflexions, d'interprétations, de livres. Et il est devenu lui-même le support, comme le ruban de machine à écrire, le support de tant et tant d'écritures, à commencer par celle de Rousseau, puisqu'il nous dit à un moment donné que cet événement de sa jeunesse a déterminé tant et tant de choses dans sa vie, et notamment les confessions. C'est comme si les confessions elles-mêmes n'avaient été écrites que parce qu'il y avait eu ce vol. Alors je me suis plus qu'amusé, parce que j'ai pris ça très au sérieux, je me suis en tout cas aussi amusé à repérer des analogies entre les confessions d'Augustin et les confessions de Rousseau, qui toutes les deux archivent en quelque sorte, et la question de l'archive est au centre de ce livre, hein, archivent un vol à l'âge de 16 ans. Hein, et l'attention que j'ai prêtée à ces analogies m'a donné à penser ou à rêver que peut-être Rousseau avait totalement inventé cela pour s'inscrire dans la tradition d'un nouveau genre littéraire qui était celui des confessions inaugurées par Saint-Augustin, la confession d'un vol étant en quelque sorte le coup d'envoi de l'écriture.
Alors, dans ce volume, il est évidemment, puisque vous avez repris un certain nombre d'entretiens, souvent question de la déconstruction. Vous en parlez aussi, bien sûr, avec Elisabeth Rodinesco dans De quoi demain. Mais j'imagine que vous en avez un peu assez de parler de la déconstruction. Donc je ne vais pas vous interroger longuement là-dessus.
Merci.
Mais peut-être que nos auditeurs seraient déçus si nous n'en parlions pas. En tout cas, là, vous rappelez que ce n'est ni une philosophie, ni une science, ni une méthode, ni une doctrine. D'ailleurs, dans un autre livre, Résistance de la psychanalyse, vous dites que c'est une hyper-analyse, qu'il s'agit de défaire, de désédimenter, de décomposer, de déconstituer des sédiments, des artefacta, des présuppositions, des institutions, etc. Bref, c'est l'impossible. Et l'impossible est ce qui arrive en même temps. Ça, c'est la définition que vous donnez dans le dialogue avec Elisabeth Rodinesco.
Si pour faire vite et pour jouer un peu, j'essaie de me rappeler les définitions que, sous la pression d'une question, en général d'interview, je me suis laissé aller à donner de la déconstruction brièvement. Il y en a, si je compte bien, au moins quatre.
Ouais.
Si vous me permettez, je les rappelle, c'est un sens très bref. J'ai dit une fois, la déconstruction, c'est l'Amérique, dans un texte sur Paul de Man. Et une autre fois, dans le même livre, ayant abandonné cette première hypothèse, j'ai dit la déconstruction, c'est plus d'une langue. Parler plus d'une langue. Et puis une autre fois, la déconstruction, c'est l'impossible. Et enfin, une quatrième fois, c'est ce qui arrive, vous voulez le rappeler. Et je crois que ces quatre définitions, qui sont à la fois algébriques, brèves, ironiques, mais sérieuses aussi, ne sont pas, comment dire, disparates ou incompatibles. Elles forment une sorte de, je l'espère, de cohérence. D'abord, ce qui arrive comme l'impossible. Il est évident que si ce qui arrive, si un événement, ou bien qui arrive, parce que qui arrive, c'est-à-dire l'arrivant, le qui arrive, n'est-ce pas ? Ce qui arrive ou bien l'arrivant. Si ce qui arrive ou l'arrivant était possible, autrement dit, si je les voyais venir, si c'était en mon pouvoir de les recevoir, de les prévoir, si c'était possible, eh bien, ils n'arriveraient pas. Ce serait simplement le remplissement d'un programme, d'une attente, et donc l'événement serait neutralisé par sa simple possibilité. Autrement dit, pour que quelque chose arrive, ou que quelqu'un arrive, au sens fort du terme, il faut que cette personne, ce quelqu'un, où cet événement arrive comme impossible, comme ce qui n'était pas encore possible. Donc, la déconstruction n'est pas justement une doctrine ou un savoir ou quelque chose qui était à ma disposition comme un instrument, une méthode ou quelque chose de calculable que j'ai à ma disposition, une technique que j'enseigne. La déconstruction a lieu chaque fois où quelque chose arrive, et qui arrive, ou quelqu'un arrive. Expérience d'hospitalité inconditionnelle, par exemple, hein, de don, de pardon, où ce qui arrive comme impossible désorganise en quelque sorte le champ du possible et le champ de la réception, désorganise la réception. comme un hôte inattendu, et qui arrive, est un principe de désordre dans l'espace qui le reçoit. Mmh. C'est à cette condition qu'il y a de l'hospitalité pure. Si celui qui arrive est invité et ne dérange personne, hein, c'est pas de l'hospitalité. Donc, seul l'impossible arrive d'une certaine manière. Et cela suppose plus d'une langue, c'est-à-dire qu'il faut là aussi que l'élément d'appropriation qui est constitué par la maîtrise d'un langage, d'une syntaxe, d'une grammaire, d'un sens même, d'une sémantique stabilisée, il faut que ça s'ouvre, laisse déranger par une autre langue ou par la langue de l'autre. Hein, par la langue de l'autre. Donc il faut qu'il y ait plus d'une langue et une expérience de traduction impossible, d'une certaine manière, pour que quelque chose comme cette déconstruction advienne. Mmh.
La déconstruction, c'est l'Amérique, donc. Mais je voudrais quand même rappeler qu'il y a quelques semaines, vous avez reçu le prix Adorno, Jacques Derrida, ce qui prouve que, contrairement aux idées reçues selon lesquelles vous seriez un philosophe pour les Américains, la déconstruction arrive en Europe.
Oui. Je voudrais dire un mot au moins de cette boutade, la déconstruction, c'est l'Amérique, que j'avais risqué en 1984, je crois. C'était, à titre de boutade sérieuse, un effort pour marquer qu'il n'était pas fortuit que la déconstruction, non pas soit si bien accueillie en Amérique, parce qu'elle n'a pas été aussi bien accueillie qu'on le dit souvent en Amérique. Il y a ce préjugé qui m'indigne un petit peu, je dois dire, contre lequel je voudrais protester publiquement, puisque vous m'en donnez l'occasion, selon lequel la déconstruction et du coup, moi, par la même occasion, si je puis dire, sont bien reçus aux États-Unis. C'est faux! C'est aux États-Unis qu'il y a le plus de résistance et de guerre. Et il est vrai que la guerre est une modalité, naturellement, d'accueil, mais il y a beaucoup de guerre et de résistance. Et ce que j'essayais de dire quand je disais que c'est l'Amérique, c'était que ça n'était pas fortuit si ce pays qui est à la fois très religieux, très marqué par une tradition théologique, qui est à la fois en situation d'hégémonie, mais d'hégémonie critique, l'hégémonie des États-Unis est aussi indéniable que sa fragilité, la fragilité de cette hégémonie. On en a encore on a de plus en plus d'exemples. Donc il n'était pas fortuit que les États-Unis, et notamment certaines universités, la culture américaine, offrent à la déconstruction un terrain de bataille. Pas un terrain d'hospitalité ou d'accueil, mais un terrain de bataille privilégié. Mais évidemment, ce qui est injuste, c'est de laisser entendre, et ça, je suppose que c'est une hypothèse très intéressée, et ça m'amuserait beaucoup d'analyser l'intérêt en question. C'est très injuste de prétendre que, c'est seulement, que la déconstruction n'intéresse que les États-Unis. Parce que, là aussi, il y a un phénomène de mondialisation un peu partout. Ça arrive d'une manière ou d'une autre. En Allemagne, c'est une histoire beaucoup plus, une histoire très compliquée. Là. Parce qu'il y a eu, en effet, pendant très longtemps, une très forte résistance, là aussi, en Allemagne. Et je ne sais pas si vous souhaitez qu'on entre dans ce champ, mais c'est seulement au cours des 5-6 dernières années que... dans l'université allemande, dans les départements de philosophie, on est revenu sur un puissant préjugé qui s'était installé dans les années 70, début des années 80, selon lequel les philosophes ou les théoriciens français, en groupe, qu'il s'agisse de Foucault, Deleuze, Lyotard et d'autres, étaient, alors Habermas était pour beaucoup, dans le crédit accordé à cette interprétation, étaient des néoconservateurs nietzschéens, politiquement neutres, voire suspects, et ce qui était évidemment une très grave faute de lecture. Et c'est seulement au cours des 5-6 dernières années que cette lecture a été un peu dérangée par de nouveaux lecteurs, par de jeunes enseignants, par des traductions, par des publications. Je pense que mes derniers livres, comme Spectre de Marx, Politique de l'amitié, Force de loi, ont quand même obligé un certain nombre de gens à s'apercevoir que ce n'était pas du néoconservatisme nietzschéens ou néo-heideggériens, qui c'était plus compliqué que ça. Et peu à peu, les choses ont changé. Je veux dire que Habermas lui-même a très honnêtement reconnu que c'était pas si simple. Bon, et ce qu'on appelle la réception allemande de ces choses-là a, et je m'en réjouis, changé. Je crois que quand il m'est arrivé de m'en expliquer, notamment à Francfort, justement au moment de ce prix Adorno, j'ai invoqué non seulement des choses comme celles que je viens de dire, mais aussi le fait que, entre certains philosophes allemands, je pense à Habermas, et certains philosophes français, c'est en tout cas mon cas, il y avait, au-delà des malentendus qui persistent d'ailleurs, des désaccords peut-être profonds qui ne sont pas levés, il y avait le sentiment que des responsabilités communes étaient à prendre, des responsabilités politiques quant à l'Europe étaient plus urgentes. Et c'est cette conscience de responsabilité partagée qui a peut-être facilité des mouvements de rapprochement, de réconciliation, de ce changement de terrain en quelque sorte. Mmh.
L'Europe, justement, vous en avez parlé dans un autre livre, publié aux éditions de Minuit, qui s'intitule « L'autre cap », où vous défendez une Europe politique. Et vous revenez sur le thème avec Elisabeth Roudinesco dans « De quoi demain ?» quand, par exemple, vous parlez de l'héritage européen qui serait un potentiel inépuisable de crise et, justement, de déconstruction.
Oui, il y a, naturellement, c'est difficile en improvisant de reparler encore de l'Europe. Mais ce qu'on peut peut-être en dire de façon économique ou algébrique, c'est que ce qu'on nomme l'Europe ou la philosophie européenne, c'est non seulement un corps de culture, de langue, de tradition qui se rassemble, mais c'est aussi un tourment et un travail porté à justement excéder le lieu européen, à excéder ses propres frontières. On parlait tout à l'heure de vocation universelle, de mouvement pour justement se porter au-delà de son lieu de naissance. Je crois que c'est ça ce qui caractérise justement le meilleur de la philosophie européenne, de ce qu'on appelait autant de Husserl ou de Valéry ou même de Heidegger, l'esprit européen. Et donc la difficulté, c'est pour les responsabilités que nous avons à prendre aujourd'hui, c'est à la fois d'être fidèle à cette inspiration, à ce mouvement d'universalisation, sans eurocentrisme, c'est-à-dire sans reconstituer une Europe qui, identique à elle-même, reprendrait une sorte de figure stable et de force politique, économique, militaire, en concurrence avec d'autres forces analogues. Donc, comment faire pour être un héritier de l'Europe de ce point de vue-là, sans eurocentrisme? C'est ça la difficulté de cette réponse, de cette responsabilité.
Thank you.
Alors, je voudrais qu'on revienne, Jacques Derrida, sur le titre que vous avez donné à ce livre d'entretien, enfin de dialogue avec Elisabeth Rodinesco, « De quoi demain ?» C'est une abréviation d'une phrase de Victor Hugo.
Oui.
Il est vrai qu'il s'agit des chants du crépuscule. « De quoi demain sera-t-il fait ?» Et vous, il y a une expression que vous employez souvent, c'est « ce qui vient ». Ce qui vient, une expression qui revient souvent ces dernières années. De quoi parlez-vous quand vous parlez de ce qui vient, de ce qui va surgir de manière totalement imprévisible, de ce qui à la fois appelle et déborde votre responsabilité en tant que philosophe?
Oui. Non, je crois que si j'ai privilégié ces petits mots, ce syntagme, ce morceau de phrase, ce qui vient, c'est pour faire droit, d'une part, à ce qu'on appelle l'événement. Le mot d'événement fait référence, et ce n'est pas le cas dans toutes les langues, dans Ereignis, par exemple, en allemand, ou dans d'autres langues, ce qu'on traduirait par événement ne fait pas nécessairement référence à la venue. Donc je voulais garder cette référence à la venue comme arrivée de l'imprévisible, c'est-à-dire de quelque chose qui arrive là où on ne l'attendait pas, et à quelqu'un qui vient. À quelqu'un qui vient, à l'avenir, ce qui reste à venir, comme temps ou chose à venir, mais aussi comme qui. Non, pas, non seulement le quoi, mais le qui. Et donc, il s'agissait de garder dans la sémantique du venir cette référence à un avenir qui n'est pas simplement un futur. Le avenir, c'est ce qui s'annonce quelquefois comme le corrélat d'une promesse, mais qui s'annonce comme imprévisible. Je parle souvent de messianicité sans messianisme, c'est-à-dire de quelqu'un qu'on attend sans attendre, qui peut venir ou ne pas venir. La catégorie du peut-être est indispensable ici. S'il ne vient que ce que j'attends, ou ce que je vois venir, ou ce que je prévois, ça ne vient pas. Il n'y a pas d'événement. Donc pour qu'il y ait venu et événement, il faut que cela excède en quelque sorte mon anticipation ou mon horizon d'attente. Et donc j'ai voulu marquer cet excès du venir sur ce qui est présent, sur la modalité du présent. L'avenir n'est pas simplement le présent futur. C'est qui vient, ou qui peut venir ou ne pas venir, peut-être. La modalité du peut-être est ici indispensable. Et donc c'est pour ça que je parle par exemple aussi de démocratie à venir, très souvent, c'est-à-dire de ce qui est à la fois promis et non assuré, par-delà, par exemple, toutes les figures de la démocratie existantes, qui est liée à une promesse, mais aussi bien à une menace. S'il n'y avait que de la promesse, là, en général, les théoriciens des actes de langage tiennent que la promesse promet toujours quelque chose de bon. On ne promet que quelque chose de bon. Je ne vous promets pas de vous faire mal, je vous menace de vous faire mal. Je ne promets pas de tuer, je menace de tuer. Donc la promesse, toujours la promesse de quelque chose de bon. J'ai essayé de contester cette analyse, cette axiomatique-là, en marquant que toute promesse doit comporter le risque d'une menace. Il y a de la non-assurance. Bon.
Vous dites à Elisabeth Rodinesco, vous dites, c'est ce qui arrive ou qui fond sur moi.
Voilà, qui, comme je le disais tout à l'heure, comme je le suggérais tout à l'heure, ce qui me surprend. Ce qui arrive d'en haut, ou de derrière, ou de dessous, que je ne vois pas venir, qui peut être aussi, donc, ma mort, ou l'inconscient. Ce dont je n'ai pas la maîtrise, ce qui n'est pas au pouvoir, ce qui n'est pas, ce dont aucun « je peux » n'est capable. D'où la faiblesse, on parlait de faiblesse tout à l'heure, devant un événement digne de ce nom, je dois être désarmé. Je dois être désarmé et sans assurance. Alors, la référence à l'avenir, c'est la référence à l'histoire, à ce qu'on appelle le futur, à l'hospitalité inconditionnelle, c'est-à-dire l'exposition à qui vient, que je n'ai pas invité, hein, qui me visite sans que je l'invite. Hein. C'est le don au-delà de l'échange, au-delà de la circulation économique de l'échange. Hein. Donc c'est l'exposition vulnérable à la venue de l'autre.
Mmh. C'est un peu l'improbable.
C'est l'improbable. C'est l'improbable au sens de ce qui ne peut pas être prouvé.
Hein. Mmh. Alors, il y a également dans ce livre, De quoi demain, et également dans Papier Machine, des développements sur la figure de l'intellectuel, parce que c'est vrai que les journalistes s'interrogent beaucoup sur cette question. En 1983, Jean-François Lyotard publiait dans Le Monde un texte intitulé « Tombeau de l'intellectuel », où il affirmait que l'intellectuel était mort, et ça, vous le rappelez dans « De quoi demain ?». Mais on peut penser aussi que, avec ce livre, vous faites voler cette idée en éclats. On trouve, par exemple, la réponse que vous avez faite à l'enquête lancée par la revue Ligne de Michel Suria en 1997, intitulée justement « Les intellectuels, tentative de définition par eux-mêmes », où vous, Jacques Derrida, pris de court un peu dans un espace comme dans une émission de radio, un peu trop court, vous répondiez en 5 fois 5 points. On ne va pas tous les citer, mais on peut citer le troisième, où vous disiez « Jamais la tâche d'une définition rigoureuse de l'intellectuel ne m'a en fait paru aussi impossible qu'aujourd'hui. »
Eh oui, mais alors aujourd'hui encore, qu'est-ce que je peux dire ? Tout ce qui avait dessiné la figure de l'intellectuel dans l'histoire, et notamment dans l'histoire de France, à savoir l'écrivain au service d'une cause juste, de Voltaire à Zola à Sartre, hein, Victor Hugo, donc littérature, au service d'une cause juste, dans l'espace public. Tout cela, évidemment, n'est pas simplement périmé, mais doit se soumettre à une transformation profonde du dit espace public. Entre autres choses, parce que ce qui définissait le travail intellectuel, évidemment, l'intellectuel n'est pas seulement défini par le travail intellectuel, néanmoins, il est en partie défini par le travail intellectuel que Marx encore opposait au travail manuel. Aujourd'hui, cette distinction entre l'intellectuel et le non-intellectuel n'a plus du tout la même chance. L'usage de n'importe quelle technique dans une usine ou dans l'armée ou dans le commerce implique le maniement intellectuel d'instruments assez compliqués. Donc la distinction entre travail manuel et travail intellectuel est déjà à remettre en largement en question. Et puis, justement, les nouvelles formes de médias, la nouvelle répartition des figures qui enracinent le politique dans le territoire, les nouvelles formes d'internationalité, les nouvelles formes de prise de parole et de transmission de la parole dans les médias. Tout cela a fait que la figure classique du grand intellectuel, sans être périmée, n'a plus du tout la même place. Et je crois que si on ne veut pas abdiquer les responsabilités dont nous sommes chargés en tant qu'intellectuels, c'est-à-dire en tant que personnes qui prenons la parole publiquement, qui publions, qui sortons de l'espace privé, qui témoignons dans l'espace public, il faut reprendre en considération toutes ces nouvelles données. J'essaie de le faire, je suis incapable de reconstituer ce que je disais dans ce long entretien, cette longue réponse, mais la tension qui se trouvait au centre de cette réponse, c'est qu'à la fois, on ne peut plus mimer la rhétorique ou les gestes ou la pratique de ce qu'on appelait les intellectuels au 19e, au début du 20e siècle, on ne peut pas mimer cela, ça devient ridicule, et on pourra en donner beaucoup d'exemples, mais on ne peut pas non plus abdiquer ses responsabilités. Donc il faut inventer de nouvelles pratiques. Je serai le dernier à proposer des normes, ou encore moins des leçons pour cette nouvelle pratique. Je crois que chacun a inventé ses propres façons de faire, travailler avec ses propres limites, signer là où il peut signer. Et je ne crois pas qu'il n'y a pas de modèle. Voilà, il n'y a pas de modèle. En tout cas, moi, je ne crois à aucun modèle pour un intellectuel d'aujourd'hui.
Tout au long de cet entretien, Jacques Derrida, nous avons tiré quelques fils dans le désordre, extraits de trois livres que vous venez de publier, L'université sans condition, Papier machine, De quoi demain. Il se trouve qu'il y en a un quatrième que nous avons passé sous silence, qui est un livre sur un peintre ou avec un peintre, Atlan. Ça vous arrive souvent d'ailleurs d'écrire sur l'art et sur la peinture. Je vais rappeler La vérité en peinture, par exemple. C'est un livre déjà ancien qui date de 78, publié chez Flammarion. Vous avez préfacé souvent des expositions d'artistes. Là, vous avez donné un texte, un très beau livre de très grand format. Le livre s'intitule « Atlan grand format, de la couleur à la lettre ». Et votre texte est précisément celui qui s'intitule « De la couleur à la lettre ». Mais dans le livre, on peut trouver aussi des textes d'Atlan, les dits du peintre, de Jean-Michel Atlan lui-même. Et à propos de cette peinture, qui, je le remarque, intéresse les philosophes, parce que je me souviens qu'il y a eu un texte d'Emmanuel Lévinas aussi sur Atlan.
Atlan était philosophe aussi de profession, il était professeur de philosophie au moment où il a commencé à peindre. Oui.
Donc vous dites que cette peinture est aussi une peinture de la voix.
Oui, j'ai cru, ça ne serait pas le seul exemple de peinture sonore ou musicale, mais j'ai cru en effet y entendre quelque chose retentir à partir d'autres langues. C'est une peinture qui travaille au corps ou se laisse travailler au corps de mythologie à la fois grecque, océanique, par la Bible aussi, hein. Et il y a beaucoup de textes, même textes prophétiques, qui résonnent dans une peinture, qui reste une peinture, qui n'est pas du tout discursive. Hein. Je crois que quand je parle ici de voix ou de musique ou de sonorité et de rythme, surtout c'est une peinture où la place de du mouvement dansant est très évidente. Donc quand je parle de voix, il ne s'agit pas de discours, c'est une peinture muette de ce point de vue-là, en quoi c'est une vraie peinture.
Et qui laisse muet aussi, parce que, comme vous le dites, vous êtes incapable de nommer une couleur d'Atlan.
Oui. Là, il y a des... Nommer les couleurs, c'est je ne sais pas si c'est seulement dans le cas d'Atlan, mais en effet, la question de du nom donné à une couleur est une grande question dans laquelle je n'arrive pas à voir clair, justement. Et évidemment, un grand peintre, ou un peintre comme Atlan, c'est quelqu'un qui dénomme les couleurs, qui, en tout cas, vous rend sensible à l'urgence de... d'inventer de nouveaux noms pour les couleurs, ou de laisser les couleurs sans nom, ou en tout cas d'introduire une turbulence chromatique dans la paix des catégories de couleurs, des nominations du spectre des couleurs, là.
Les livres de Jacques Derrida dont il a été question dans cette émission, Chez Galilée, Papier Machine et L'Université sans condition, chez Fayard et Galilée, De quoi demain, dialogue avec Elisabeth Roudinesco, et chez Gallimard, Atlan grand format, de la couleur à la lettre. Surpris par la nuit, Christian Fontaine, Bernard Troton, Didier Pinault, Alain Weinstein. Thank you.